Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'après le changement d'heure, vous avez pu dormir une heure de plus et qu'on vous avez pu profiter en tout cas de cette heure en plus et que vous êtes bien reposé en tout cas. Alors ne tenez pas compte de la référence n'a pas été changée, mais c'est bien 1 Jean 4, versets 7 à 21. Après plusieurs mois d'interruption, nous reprenons cet après-midi notre série de prédications sur 1 Jean. Pour terminer au moins cette année ce que nous avons commencé. Si je vous dis le mot « amour » ou le verbe « aimer », à quoi pensez-vous? Quelle image pourrait évoquer l'amour pour vous? Si vous deviez penser à une image, quelle image pourrait représenter l'amour pour vous? Je vous laisse imaginer. Alors, certains me montrent des cœurs. Oui, effectivement, ça pourrait être ça, l'amour. Et d'ailleurs, quand j'ai tapé sur Google, c'est l'une des premières images qui sort. Amour égale cœur. Et d'après notre texte, l'amour parfait, c'est plutôt ça, un homme crucifié. C'est pas exactement la même image. Le thème de l'amour revient souvent dans les écrits de l'apôtre Jean. Et tout particulièrement dans sa première épître. Dans 1 Jean, nous retrouvons 28 fois le verbe aimer. Et dans notre texte, nous retrouvons le verbe aimer 15 fois. Autant vous dire que nous allons parler d'amour cet après-midi. Et plus précisément, de l'amour fraternel dans l'Église. Mais avant, remettons-nous dans le contexte. L'apôtre Jean n'est plus tout jeune. Et dans sa vieillesse, il écrit cette lettre qu'il adresse à des chrétiens qui vivent probablement en Asie mineure. Il y a une carte pour vous montrer où ça se situe, dans l'actuelle Turquie, du côté d'Éphèse. Donc il écrit à ces chrétiens qui résident là-bas. Nous sommes dans les années 80-90 après Jésus-Christ. Et Jean écrit pour rassurer ces chrétiens troublés. Troublés surtout par un nouvel enseignement que certains qui ont quitté l'Église leur apportent. Un nouvel enseignement qui nie un des fondements de la foi chrétienne, l'incarnation. Ces gens ne croient pas que le Fils de Dieu soit devenu un homme en la personne de Jésus. Et Jean veut rassurer les chrétiens à qui il s'adresse en leur démontrant qu'ils sont du bon côté, qu'ils sont du côté de Dieu, qu'ils sont du côté de la vérité. Et nous avons déjà vu qu'il y a dans cet épître trois oppositions récurrentes, qui sont comme trois tests à appliquer pour savoir quelle est la foi authentique, pour reconnaître qui sont les vrais chrétiens. Eh bien, ces trois oppositions, vous les voyez dans ce tableau qui s'affiche, c'est l'obéissance et le péché, c'est l'amour et la haine, c'est la vérité et l'erreur. Et vous voyez qu'on a tout un cycle, tout au long de la lettre que Jean adresse à ses chrétiens, ces trois thèmes, ces trois oppositions reviennent constamment. Et là, nous sommes dans la dernière section, vers la fin de la lettre, au chapitre 4, et il est question de l'amour. Après avoir exhorté ses destinataires à mettre les esprits à l'épreuve, c'était notre dernier message sur 1 Jean, donc de mettre les esprits à l'épreuve, c'est-à-dire de discerner dans les enseignements ce qui vient de Dieu, Jean revient sur le thème de l'amour mutuel. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres est déjà un refrain dans cette lettre. Un refrain que nous ne devons pas nous lasser d'écouter. Parce qu'il est si facile de nous relâcher dans le domaine de l'amour. Quand il s'agit d'aimer les autres dans l'Église, ce n'est pas toujours aussi simple. L'autre partage la même foi que moi, mais en même temps, il est différent. Différent quant à sa personnalité, quant à sa culture, quant à son passé. Nous n'avons pas toujours les mêmes centres d'intérêt. Et pourtant, c'est mon frère, c'est ma sœur en Christ. Et pourtant, je dois l'aimer. Jésus me le commande. Et selon Jean, aimer mes frères et sœurs est une des preuves solides que je suis chrétien, que je connais Dieu qui est amour. Si Dieu est amour, les chrétiens qui sont les enfants de Dieu aiment à leur tour tel père, tels enfants. Et nous sommes certains, dans cette Église, que Dieu nous aime. Et nous allons voir tout de suite, après, pourquoi. Mais nous l'avons aussi déjà évoqué dans la première partie du culte, à travers les chants. Nous savons que Dieu nous aime. Et c'est ainsi que nous pouvons résumer le message de notre texte. Puisque Dieu nous aime et qu'il demeure en nous, aimons-nous les uns les autres. Puisque Dieu nous aime et demeure en nous, aimons-nous les uns les autres. Et pourquoi l'amour que nous avons les uns pour les autres est-il une preuve de la foi authentique? Eh bien, pour trois raisons, en tout cas évoquées dans ce texte. D'abord, que s'aimer les uns les autres, c'est le signe que nous connaissons Dieu. Ensuite, que c'est le signe que Dieu demeure en nous. Et puis enfin, que c'est le signe que l'amour de Dieu est parfait en nous. Commençons par cette première affirmation que s'aimer les uns les autres, c'est le signe que nous connaissons Dieu. Il existe dans notre répertoire musical beaucoup de chansons d'amour. Beaucoup de chansons qui parlent de l'amour, du fait d'aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Apprendre à aimer, aimer sans attendre et aimer à tout prendre. Et il y a aussi ce refrain « Pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer ». Alors peut-être que dans vos têtes, il y a la mélodie qui revient, mais nous connaissons ces chansons. Et dans tout cela, nous pouvons oublier d'où vient l'amour ? Quelle est l'origine de l'amour ? Dans les versets 7 à 11, Jean dirige bien nos regards vers Dieu, qui était à l'origine de l'amour. Verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Car Dieu est amour. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Et l'apôtre Jean explique pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Nous ne nous aimons pas dans l'Église parce que c'est un beau sentiment, mais parce que celui qui est amour nous a transformés, nous a donné la capacité d'aimer. Nous n'aimons pas parce que c'est beau. Et dans l'Église, celui qui a de la haine pour les autres chrétiens ne connaît pas Dieu, affirme Jean. Mais si nous nous aimons les uns les autres, alors cela démontre que nous connaissons véritablement Dieu. Dieu est amour dans un sens absolu. Il n'y a personne d'autre dans l'univers qui sache aimer comme il le fait. Personne d'autre dans l'univers n'a voulu nous aimer comme il l'a fait. Personne d'autre dans l'univers n'a voulu nous sauver comme il l'a fait. Dieu est amour dans tout ce qu'il fait. Et Dieu nous a manifesté de l'amour d'une manière concrète, en intervenant dans l'histoire de l'humanité. Et cet amour est tellement fort que plus d'une fois, j'ai pleuré à cause de cet événement historique. Quel est cet événement qui révèle l'amour de Dieu ? Verset 9, « Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. » Ou encore verset 10, « Lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Autrement dit, Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, son Fils bien-aimé, dans ce monde. Jésus est Dieu le Fils devenu homme, et dans quel but ? Afin de mourir à la croix, afin de mourir à notre place, afin de mourir pour nos péchés. Pour nous qui avions cumulé trop de dettes envers Dieu et qui étions incapables de les rembourser. Nous qui méritions la mort pour avoir tant de fois offensé Dieu par le mal que nous faisions et par le mal que nous continuons à faire d'ailleurs. Mais, c'est le fameux « mais » biblique, « mais Dieu nous aime tant » que précisément, il a envoyé son Fils à la mort, à notre place, pour que par Jésus, nous obtenions la vie éternelle, pour que par Jésus, nos péchés soient pardonnés et notre dette effacée. Et ça s'appelle la bonne nouvelle, ça s'appelle l'Évangile. Et la résurrection de Jésus confirme que Dieu valide ce sacrifice à notre place pour que nous puissions vraiment en bénéficier. Ça, mes amis, c'est l'amour. Et personne d'autre dans l'univers ne nous aime comme ça. Personne d'autre. Nous avons pris le temps de considérer l'amour de Dieu pour nous, dans sa manifestation la plus éclatante, la plus incontestable. Et l'apôtre Jean reprend son exhortation de départ au verset 11. « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » Ce qui pousse les chrétiens à s'aimer les uns les autres dans l'Église, ce n'est pas premièrement pour avoir bonne conscience, ou parce que l'amour est une belle vertu dans notre humanité. C'est d'abord parce que Dieu a tant aimé son Église. Et comme l'écrit Jean un peu plus loin, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour que nous avons les uns pour les autres découle de l'amour que Dieu a pour nous et qu'il a manifesté à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas un amour que nous fabriquons de toutes pièces à partir de nos bons sentiments, parce que nous sommes gentils. Ce n'est pas de cet amour-là dont il s'agit. Car si nous faisons cela, c'est-à-dire si nous fabriquons notre amour à partir de nos sentiments, nous finirons par nous essouffler. Et très rapidement, il n'y a qu'un pas pour passer de l'amour à l'indifférence, pour passer de l'amour à la haine. Dans notre monde, nous voyons que l'amour sans Dieu est voué à l'échec. Nous aimons pour un temps, puis nous ne supportons plus l'autre. Dans certains cas, cela s'exprime par la violence verbale, par la violence physique. Dans d'autres cas, c'est une séparation, un divorce. Et dans le pire des cas, c'est le meurtre. Pourtant, dans toutes ces histoires-là, il y avait ce qu'on appelle de l'amour au départ. Bien entendu, pour ne pas trop noircir le tableau, dans sa grâce, Dieu conduit aussi des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas à aimer profondément et à faire beaucoup de bien dans ce monde. Heureusement. Mais nous avons trop d'histoires où l'amour ne dure pas. Et en ce qui nous concerne, prenons comme point de départ l'amour que Dieu nous a témoigné. C'est le point de départ. Méditons, comme nous venons de le faire ensemble, le don incomparable de Dieu. Et l'apôtre Paul exprime la même idée dans Romains chapitre 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu est un amour qui fait grâce et c'est notre point de départ pour aimer nos frères et sœurs en Christ, à Saint-Maur et partout ailleurs. C'est notre point de départ. Dieu nous a tant aimés que ce serait le trahir que de ne pas aimer les frères et sœurs. Ce serait rejeter Dieu dans ce qu'il est, lui qui est amour. Et nous pourrions nous demander, comment Dieu qui est saint, qui est parfait, qui ne tolère pas le péché, peut-il aimer des pécheurs comme nous? Comment peut-il faire cela? Rappelons-nous cela. Si Dieu nous aime, ce n'est pas parce que nous sommes aimables ou que nous ayons quelque chose en nous que Dieu ait envie d'aimer, mais parce que c'est dans sa nature d'aimer. C'est dans la nature de Dieu d'aimer. Si Dieu cesse d'aimer, il n'est plus Dieu. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Et il nous apprend à nous aimer les uns les autres. S'il y a quelqu'un qui puisse nous apprendre, parce que nous avons besoin d'apprendre, s'il y a quelqu'un qui puisse nous apprendre à aimer nos frères et sœurs, c'est bien lui. Et notez bien ce que Jean dit ici. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous avons un devoir, une obligation. Une obligation liée au fait que nous soyons chrétiens. Une obligation liée au fait que nous soyons enfants de Dieu. Une obligation liée au fait que nous connaissons Dieu. Et comme je l'ai lu cette semaine, nous n'aimons pas nos frères et sœurs parce que l'autre est aimable. Parce que l'autre a plutôt des défauts d'ailleurs. Mais nous aimons l'autre parce que c'est dans la nature des chrétiens d'aimer les autres chrétiens. Tout comme c'est dans la nature de Dieu de nous aimer. Plus Dieu nous transforme à son image, plus notre capacité d'aimer grandit. Et l'amour mutuel est donc, comme nous l'avons vu, le signe que nous connaissons véritablement Dieu, que nous connaissons son amour pour nous, un amour qui se manifeste dans le sacrifice pour l'autre, un amour qui nous sert de modèle. Ne cherchons pas un modèle ailleurs pour aimer les autres. Et Jean poursuit en indiquant que l'amour mutuel est aussi le signe que Dieu demeure en nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait quelques apparitions sous une forme visible. Un buisson ardent, un personnage appelé l'ange de l'Éternel, un roi assis sur son trône, comme dans la vision d'Ésaïe que nous avons étudiée la semaine dernière. Dieu a fait quelques apparitions, mais en réalité, aucun homme n'a vu Dieu tel qu'il est vraiment. Et Dieu lui-même dit à Moïse, dans Exode 33, 20, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ce n'est pas le souhait de Dieu de se montrer pour que l'homme pécheur meure. Et au début de son évangile, Jean a aussi écrit que personne n'a jamais vu Dieu, mais que Jésus, le Fils unique de Dieu, nous l'a révélé. En la personne de Jésus même, nous pouvons voir Dieu tel qu'il est. Et ici, dans sa lettre, Jean évoque l'invisibilité de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Certes, nous ne pouvons pas voir Dieu sans mourir, mais nous pouvons le voir dans l'Église. Et plus précisément, quand nous nous aimons les uns les autres. Là, nous voyons Dieu. L'amour au sens chrétien du terme, l'amour pour mes frères et sœurs, est la preuve que Dieu demeure en moi. L'amour que nous exprimons les uns aux autres est le signe que Dieu est là. Et Jean dit aussi que son amour est parfait en nous. Et je reviendrai sur ce thème de l'amour parfait dans la dernière partie. Mais regardons la suite, verset 13. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Jean a déjà dit cela à la fin du chapitre 3, et il le répète ici. Nous savons que Dieu demeure en nous parce qu'il nous a fait don de son esprit. Chaque chrétien a reçu le Saint-Esprit au moment où il a placé sa confiance en Dieu, au moment de sa conversion. Et si c'est votre cas, vous avez l'Esprit Saint en vous. L'Esprit de Dieu nous témoigne intérieurement, nous certifie que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes vraiment passés de la mort spirituelle à la vie. L'Esprit en nous atteste que nous avons une relation privilégiée avec Dieu, que nous appelons Abba, c'est-à-dire Père. C'est pourquoi Jean peut écrire que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Et vous constaterez que cette expression est répétée à plusieurs reprises. Et c'est la prochaine slide qui le montre. Cette expression « Dieu demeure en nous et nous en lui » est répétée à plusieurs reprises. Et le commentateur John Stott me convainc que ces versets 13, 15 et 16 sont liés entre eux à chaque fois que cette expression est employée. Et ça aussi, c'est la prochaine slide qui le montre. Pourquoi ? Parce que nous qui avons reçu l'Esprit Saint, nous avons reçu aussi cette possibilité de pouvoir confesser, verset 15, de déclarer publiquement, de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Sans l'Esprit Saint, c'est impossible. De la même manière, verset 16, c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons aimer, au sens chrétien du terme. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons ni confesser que Jésus est le Fils de Dieu, ni aimer les autres. Pour le dire encore autrement, la foi et l'amour mises en pratique sont des preuves que Dieu demeure en nous et que nous demeurons en lui, en communion avec lui. Et vous voyez donc que Jean structure très bien son propos dans le but de convaincre, dans le but de rassurer ses lecteurs sur l'authenticité de leur foi. Ils sont vraiment chrétiens parce qu'ils ont foi en Jésus et parce qu'ils aiment. Inversement, parce que l'inverse est vrai, l'absence de foi en Jésus-Christ ou l'absence d'amour pour les autres révèle l'absence de l'Esprit. Et c'est précisément le cas de ceux qui, à l'époque de Jean, ont quitté l'Église. Quant à nous, nous pouvons compter sur le témoignage des apôtres, sur le témoignage de Jean, qui écrit ici et qui a vu de ses propres yeux, comme il le déclare au verset 14, le Sauveur du monde. Il a vu le Sauveur du monde. Et il a connu l'amour au plus près, parce qu'il a côtoyé Jésus. Il a connu l'amour. Verset 16. Et si nous croyons en leur témoignage, et si en ce moment vous croyez en ce témoignage, c'est que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si nous demeurons dans l'amour, c'est-à-dire si nous persévérons dans l'amour, eh bien cela signifie aussi que Dieu demeure en nous. Notre capacité d'aimer notre frère, notre sœur dans l'Église dépend uniquement de l'œuvre de l'Esprit en nous. Autrement, c'est un amour superficiel. L'amour, c'est le fruit que l'Esprit produit chez les chrétiens. Et c'est logique, puisque, comme le répète Jean ici au verset 16, Dieu est amour. Donc, le fruit que Dieu produit en nous, c'est l'amour. Et si nous vivons cet amour au sein de l'Église de Saint-Maur, eh bien, nous continuerons à voir Dieu, à voir Dieu dans un certain sens, et nous pourrons avec certitude affirmer que Dieu est parmi nous et qu'il demeure en nous. Nous avons vu que l'amour mutuel, l'amour les uns pour les autres, est le signe que nous connaissons vraiment Dieu, qui nous a aimés au point de sacrifier son Fils pour nous. L'amour mutuel est aussi le signe que Dieu demeure en nous par son Esprit. C'est une preuve qui doit nous rassurer. Et enfin, l'amour mutuel, l'amour les uns pour les autres, est le signe de l'amour parfait. Et cette partie-là est un peu moins évidente à comprendre. L'amour parfait. Verset 12, de nouveau. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Il n'est vraiment pas évident de comprendre ce que Jean est en train de dire ici. Son amour est parfait en nous. Ce qui est parfait dans la Bible désigne souvent ce qui a atteint de la maturité. Dans votre étude de la Bible, n'hésitez pas à consulter plusieurs versions, plusieurs traductions pour voir comment une expression a pu être comprise. Et justement, je vous propose quelques versions. Certains ont traduit cette même partie du verset 12, « Son amour se manifeste pleinement parmi nous ». C'est la version Semeur. « Son amour se manifeste pleinement parmi nous ». Et d'autres ont traduit « Son amour est accompli en nous ». C'est la Nouvelle Bible Second. Et j'ai trouvé aussi dans un commentaire biblique que cela veut dire que l'amour de Dieu a atteint son but. Nous comprenons donc que lorsque nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu se manifeste dans sa plénitude. Alors, dit comme ça, ça a l'air assez abstrait. Mais pour le dire encore autrement, c'est pour cela qu'en recevant l'amour de mes frères et sœurs, je sais que Dieu m'aime. Parce que c'est un amour qui vient de Dieu. C'est un amour qui se manifeste pleinement. Et c'est pourquoi vous ne trouverez pas cet amour-là en dehors des relations fraternelles entre chrétiens. Vous pourrez chercher longtemps, vous ne trouverez pas cet amour en dehors des relations fraternelles entre chrétiens. C'est là, dans ce contexte de l'amour fraternel, que l'amour de Dieu atteint son but. Et pour cela, j'aimerais vous montrer un schéma qui pourrait peut-être nous aider à comprendre. Ce triangle qui représente les relations d'amour qu'il y a entre Dieu et moi, entre Dieu et l'autre. Si nous essayons de comprendre l'idée que l'amour de Dieu se manifeste pleinement, il faut comprendre que toutes les relations doivent être liées par l'amour. Dieu qui m'aime, Dieu qui aime l'autre, et moi qui aime l'autre. S'il y a une relation qui manque, il y a quelque chose d'incomplet. Si je court-circuite en quelque sorte, en n'aimant pas l'autre, eh bien l'amour de Dieu n'est pas parfait en nous. L'amour de Dieu n'a pas atteint son but puisque je n'aime pas l'autre. C'est dans l'Église, c'est au sein de la nouvelle humanité que la volonté de Dieu est faite. Car l'amour entre frères et sœurs est l'amour tel que Dieu veut le voir dans les relations humaines. Et malheureusement, à cause du péché, la conception que le monde a de l'amour est complètement erronée. Surtout quand Dieu n'est pas le point de départ de cet amour. Mais en nous donnant une vie nouvelle, un cœur nouveau, en nous donnant son esprit, Dieu nous transforme pour aimer véritablement. Et pour le dire encore autrement, le véritable amour est un amour chrétien. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Verset 17, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Si nous vivons cet amour tel que nous l'avons vu à travers ce triangle, si nous vivons cet amour dans notre église locale, déjà dans notre église locale pour commencer, nous savons que c'est ainsi que l'amour de Dieu s'exprime dans sa perfection. Si Dieu agit ainsi dans l'église en nous amenant à nous aimer les uns les autres, alors nous pouvons avoir de l'assurance. Au jour du jugement, verset 17, nous n'aurons pas à rougir devant Dieu, parce que précisément, comme Christ, nous aurons aimé nos frères et sœurs dans cette vie. Non pas avec nos propres ressources, mais avec son aide, par l'action puissante et transformatrice de Dieu. Celui ou celle qui aime son frère, qui aime sa sœur, peut être certain que Dieu est en train d'agir en lui, en elle. Il ou elle peut être certain de l'amour de Dieu dans ce contexte. Dans le contexte, on peut remontrer le triangle. C'est dans ce contexte-là que nous pouvons être certains de l'amour de Dieu. Et combien je l'ai expérimenté dans les années passées. Dans mon ancienne église, que ce soit à Paris ou même à Nantes, dans les rencontres inter-églises, partout dans le monde où j'ai pu rencontrer d'autres croyants, j'ai expérimenté cet amour. Et je l'ai expérimenté également cette année. Quel accueil! Quel accueil vous nous avez fait, à Damaris et à moi, alors que certains d'entre vous ne nous connaissaient même pas. Cet amour est réel, et vous le savez. Vous savez que cet amour vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur. Jean dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, verset 18. La peur ici est le contraire de l'assurance. Celui qui a peur du jugement de Dieu ne peut pas aimer d'une manière parfaite, d'une manière mature. Il lui manque quelque chose. Et vous savez ce qui lui manque ? Il lui manque la certitude que Dieu l'aime. Celui qui a peur ne peut pas aimer de manière mature. Quant aux chrétiens, ils n'ont pas à avoir peur de la punition, car Dieu leur a déjà montré qu'il les aime parfaitement en envoyant Jésus comme sauveur. Et puis nous lisons les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Jean écrit cela pour rappeler que les chrétiens ont pour vocation et pour caractéristique d'aimer leurs frères, d'aimer leurs sœurs. S'ils ne le font pas, ils ne sont pas cohérents avec ce qu'ils croient ou ce qu'ils affirment. Ils sont en contradiction avec Dieu qui est amour. Et Jean le répète encore ici, l'amour fraternel qui est lié à l'amour pour Dieu est un commandement du Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous voulons lui obéir. Et donc, nous voulons aimer nos frères et sœurs. Comme il nous a aimés, nous aimons nos frères et sœurs. Et j'aimerais terminer par quelques applications concrètes. L'église de Saint-Maur, que voici à travers quelques photos. L'église de Saint-Maur est la communauté que Dieu a choisie pour que tu mettes en pratique le texte d'aujourd'hui. C'est la communauté que Dieu a choisie pour que tu mettes en pratique le texte d'aujourd'hui. Et bien évidemment, je n'exclus pas le fait d'aimer les frères et sœurs des autres églises. Mais puisque cet après-midi, nous sommes rassemblés ici, aimons-nous les uns les autres. Avec une affection particulière. Avec un esprit de service et de sacrifice, tel que Jésus a pu aimer l'humanité. Le théologien Henri Blocher compare l'Église à un cocon affectif. Un cocon, c'est quelque chose de chaleureux, c'est familial. Nous veillons les uns sur les autres. Nous sommes attentifs aux besoins des autres, et particulièrement de celles et ceux qui souffrent. Y a-t-il des personnes dans notre Église dont tu ne sais rien des difficultés qu'elles traversent en ce moment? Est-ce qu'il y a des personnes dont tu ignores totalement ce qu'elles peuvent traverser en ce moment? Dans notre contexte actuel, je pense aux personnes absentes, aux personnes qui ne viennent pas souvent, à celles qui sont en ligne, peut-être en ce moment, et cela depuis des semaines. Ne les oublions pas. Aimons-les également. Prenons de leurs nouvelles, prions pour elles et avec elles. Nous pouvons bien donner de notre temps pour cela, si c'est notre manière d'aimer l'autre. Pour celles et ceux d'entre nous qui sont plus avancés dans leur foi, comment prenons-nous soin des frères et sœurs plus jeunes dans la foi? Nous ne sommes pas tous à la même étape dans la vie chrétienne. Comment est-ce que nous aidons ceux qui sont plus jeunes dans la foi à grandir? Une conversation en un à un peut déjà être encourageante. Et d'une manière plus large, comment est-ce que nous nous encourageons à persévérer durant la semaine et semaine après semaine durant 10, 20 ou 50 ans? Dans ce laps de temps, il y aurait mille et une manières de nous aimer les uns les autres. Et dans un contexte où la distanciation est de mise, laissons place à la créativité. Laissons place à l'initiative. Laissons place à la générosité. Nous le faisons déjà, et je parle encore une fois de l'Église de Saint-Maur, nous le faisons déjà par le service hebdomadaire, par l'écoute, par les repas comme celui organisé pour les seniors, par la prière collective, par la communion que nous vivons de manière incomparable dans ce lieu. Parce que comme je vous l'ai dit, en dehors des relations entre chrétiens, vous ne trouverez pas cet amour. Si ce texte que nous avons étudié cet après-midi est dans la Bible, si Jean exhorte ses lecteurs à s'aimer les uns les autres, c'est parce que nous pouvons toujours progresser dans ce domaine, avec l'aide et la puissance de l'Esprit en nous, et en nous souvenant jour après jour que Dieu nous a aimés le premier. Et c'est pourquoi nous aimons aussi. Alors oui, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais ce qui nous donne l'envie d'aimer, ce n'est pas l'amour qu'on se donne les uns aux autres. Ce n'est pas ça qui nous donne envie d'aimer, mais c'est Dieu qui nous donne envie. Dans le texte d'aujourd'hui, retenons cette exhortation. Puisque Dieu nous aime et qu'il demeure en nous, alors avec toute liberté, aimons-nous les uns les autres. Quand l'amour fraternel est vécu et manifesté dans l'Église, nous avons vu que d'abord, c'est le signe que nous connaissons Dieu. S'il y a de l'amour dans l'Église, c'est le signe que nous connaissons Dieu, car il nous a parfaitement montré ce qu'est l'amour, notamment et tout particulièrement en envoyant son Fils unique pour notre salut. Deuxièmement, c'est le signe que Dieu demeure en nous, qu'il est présent dans l'Église et qu'il agit par son Esprit dans notre cœur. Et enfin, c'est le signe que l'amour de Dieu se manifeste pleinement en nous. Seules des personnes transformées par Dieu et par son amour sont en mesure d'aimer véritablement comme Dieu le veut et sont aussi en mesure de progresser dans l'amour. Seules des personnes qui sont transformées par Dieu qui nous aime peuvent faire cela. Et progresser dans l'amour, c'est le défi que je lance à notre communauté. Nous pouvons progresser dans l'amour. Nous pouvons nous aimer encore mieux, encore plus. Et jusqu'où peut-on aller dans l'amour fraternel? Eh bien, j'aimerais raconter une petite histoire. Un pasteur raconte ce qu'il s'est produit dans sa propre communauté. Une dame âgée de son église, qui était hospitalisée, a reçu la visite un vendredi soir. C'était un petit groupe de jeunes hommes célibataires qui fréquentaient la même église. Ils étaient venus pour encourager cette dame, pour chanter des cantiques avec elle. Et l'infirmière de garde a demandé à ce groupe de jeunes hommes si la dame âgée en question était une personne célèbre pour avoir reçu autant de visites. Et les jeunes hommes ont simplement répondu « Non, elle n'est pas célèbre, elle est membre de notre Église. » Que l'amour que Dieu nous inspire nous conduise à nous aimer ainsi. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, nous sommes bien incapables de comprendre complètement ton amour. Et pourtant, tu nous as donné une preuve incontestable en envoyant ton Fils pour nous. Merci encore pour Jésus qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié à la croix en mourant pour nos péchés, en payant pour nos fautes, en subissant le châtiment que nous méritions. Merci parce que c'est comme ça que tu nous as montré que tu nous aimes. Et tu continues à nous aimer avec l'amour qu'il y a au sein de l'Église, avec l'amour mutuel les uns pour les autres. Oui, lorsque mon frère, ma sœur m'aime, je sais que c'est toi qui m'aimes. Et tellement nous sommes reconnaissants d'avoir pu faire cette expérience-là et de continuer à faire cette expérience d'être aimé dans ton Église. Oui, Seigneur, nous prions que tu nous aides à progresser, à nous aimer toujours mieux, comme tu le veux, Seigneur, comme tu le désires au sein des relations entre hommes et femmes, afin que toute la gloire te revienne, Seigneur, parce que toi, tu es amour et tu es celui qui nous inspire pour aimer l'autre. Oui, aide-nous encore durant cette semaine, durant les semaines à venir, de pouvoir progresser dans l'amour, afin de pouvoir t'honorer, afin de pouvoir obéir à ton commandement. Et déjà, Seigneur, nous le savons, tu fais ton œuvre en nous, et nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus. Amen.